France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité, Clara Lecoq-Réal.
Bonjour à tous. Et l'on commence par cette information. Toutes les crèches, écoles, universités resteront fermées à partir de lundi en France. Emmanuel Macron l'annonçait hier soir lors d'une intervention solennelle à la télévision. Une mesure exceptionnelle pour faire face à l'épidémie de coronavirus. Le président la qualifie d'ailleurs de plus grave crise sanitaire qu'a connue la France depuis un siècle. 12 millions d'élèves, 1,5 million d'étudiants sont concernés par cette mesure. Emmanuel Macron par ailleurs a appelé tous les Français à limiter leurs déplacements autant que possible, demandant d'ailleurs aux entreprises de permettre aux employés, quand c'est possible, de travailler à distance pour garder les enfants à la maison. Les entreprises qui vont recevoir des aides pourront reporter sans justification le paiement des impôts et les cotisations prévues pour le mois de mars. Un mécanisme exceptionnel et massif de chômage partiel sera également mis en place. Les détails ne sont pas encore connus à ce propos. Le président de la République qui a également précisé que les élections municipales seront maintenues. Premier tour ce dimanche. Il explique avoir pris cette décision après une rencontre avec les responsables politiques et les scientifiques de son comité de suivi du coronavirus. Le bilan en France ne cesse d'augmenter avec maintenant 61 morts, près de 2900 malades. Pour aider les personnels des hôpitaux surchargés, Emmanuel Macron annonce également la mobilisation des étudiants en médecine et des médecins jeunes retraités. Il faut s'attendre, a-t-il dit, à une deuxième vague de contamination qui touchera cette fois des personnes plus jeunes. D'autres pays en Europe prennent également des mesures drastiques. Le Portugal ferme toutes ses écoles, la Belgique aussi, ainsi que les cafés, les restaurants, les discothèques. Le bilan s'aggrave nettement par ailleurs en Italie, où la barre des 1000 morts est dépassée. À l'échelle du monde, au moins 5000 personnes sont mortes à cause du coronavirus. L'Algérie, la Norvège, la Pologne, la Grèce, l'Autriche et l'Inde ont recensé hier leur premier décès. Et puis c'est aussi une conséquence de la crise sanitaire du moment. Partout dans le monde, les bourses en chute libre. Celle de Hong Kong à l'ouverture cette nuit perdait 7%. En clôture hier à Paris, le CAC 40 a perdu plus de 12%, moins 10% à Wall Street, du jamais vu depuis 1987. Nous y reviendrons dans le journal de 6h30.
Sur France Culture, le vendredi à 18h20, c'est le temps du débat, Emmanuel Laurentin.
Alors que le genre bouleverse les conceptions que nous nous faisions jusqu'alors du sexe et de la sexualité, comment l'école prend-elle aujourd'hui en charge ces questions ? À l'occasion du Festival de films de femmes de Créteil, le temps du débat réunit philosophes, réalisatrices et sociologues en se demandant comment mettre à jour l'éducation sexuelle.
Le temps du débat, ce vendredi à 18h20 et sur franceculture.fr.
Informé au plus juste, radiographie du coronavirus, le podcast de France Culture pour comprendre l'épidémie. Retrouvez chaque jour l'essentiel sur l'épidémie de Covid-19. Explications scientifiques, décryptage des mesures prises pour enrayer la circulation du virus, soubresauts politiques, géopolitiques, économiques, sociaux. Analysez en jeu, une sélection d'émissions présentant les dernières avancées et le recul historique pour comprendre. Radiographie du coronavirus sur franceculture.fr, l'appli Radio France et les plateformes dédiées.
Pour commencer cette journée en douceur, nous retrouvons Toufik Hakem, il est 6h03 sur France Culture.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le réveil culturel, tous les jours de la semaine de 6h à 6h30 à la radio ou quand vous voulez en passant par l'abonnement au podcast. Tous les vendredis, on parle de l'actualité de la bande dessinée et aujourd'hui, la question du jour, c'est comment fabrique-t-on les super-héros en papier dans l'empire des mangas ? On se pose la question car aux dernières nouvelles, une intelligence artificielle a créé un manga signé entre guillemets, Osamu Tezuka, c'est-à-dire le grand Tezuka qui a disparu en 1980. 1989. En fait, si on a bien compris le communiqué de son éditeur, cette bande dessinée aurait été conçue par une intelligence artificielle à partir des 65 œuvres de Tezuka. Mais en attendant de lire Paiden, puisque c'est ça le titre de ce manga intelligence artificielle Tezuka sorti au Japon le 27 février dernier, et alors que la série animée Jojo's Bizarre Adventure déboule en fanfare sur Netflix, cette série animée n'est que l'adaptation du manga éponyme de Hirohiko Araki et dans les premières publication en bande dessinée remonte à l'hiver 1986. On se pose donc ce matin la question de savoir pourquoi les éditeurs japonais préfèrent miser sur les valeurs sûres du passé et les super-héros de l'âge d'or de la bande dessinée nippone plutôt que d'en inventer d'autres. Nos invités ce matin sont Nicolas Telop, auteur d'un livre qui vient de paraître aux Impressions Nouvelles, consacré à Astro Boy, le super-héros, le super-robot créé par Osamu Tezuka, et l'éditeur Grégoire Hello, spécialiste du manga, qui vient d'éditer Jump, l'âge d'or du manga, un témoignage de Hiroki Goto, très éclairant sur la manière dont on fabrique aujourd'hui les super-héros au pays des mangas. Corinne Amar et Cyril Marchand à la coordination, Vincent Abouchard à la réalisation, Philippe Mercher au mixage, le réveil culturel spécial manga, c'est parti.
Le réveil culturel. Vendredi, bande dessinée.
Tous les vendredis, c'est l'actualité de la bande dessinée, mais aujourd'hui, on va parler de la fabrique des super-héros en papier au Japon, c'est-à-dire dans le monde des mangas, toutes périodes confondues. D'Astro Boy à One Punch Man, comment on fabrique ces super-héros? Alors bien sûr, pour Astro Boy, le petit robot inventé en 1952 par Osamu Tezuka, gros succès d'ailleurs de la série SF, et puis bien sûr de son adaptation en dessin animé, c'est plutôt avec vous, Nicolas Telop, qu'on va en parler, puisque vous venez de publier aux Impressions Nouvelles Astro Boy, Cœur de Fer. Et puis on évoquera d'autres héros de shonen, de manga pour garçons, avec vous, Grégoire Hello. Grégoire Hello, vous venez de publier un très beau livre, Jump, l'âge d'or du manga. En fait, ce sont les souvenirs d'un des éditeurs de cette revue emblématique des mangas, Hirohiko Goto, c'est bien ça?
Tout à fait.
C'est un des grands rédacteurs en chef donc de cette revue. Vous allez nous en parler, Weekly Shonen Jump, la plus emblématique, ça je l'ai dit, celle qui a donné naissance à des blockbusters de la bande dessinée Nippon, Dragon Ball Z, Naruto, la série One Piece. Alors, ce livre passionnant nous raconte de l'intérieur comment fonctionne la fabrique des héros au pays des mangas, mais d'abord, un mot sur le métier d'éditeur. Hirohiko Goto, est-ce qu'il était aux commandes d'ailleurs de ce fameux Weekly Shonen Jump, quand l'hebdomadaire tirait jusqu'à 6 millions d'exemplaires, c'était l'âge d'or, c'était les années 80. Alors, est-ce qu'il ressemble à ses homologues de la bande dessinée franco-belge? Est-ce qu'on peut dire que Hirohiko Goto, c'est le Yvan Delporte? Yvan Delporte, bien sûr, qui était le rédacteur en chef du journal Spirou de 56 à 68, c'est-à-dire l'âge d'or de cet hebdomadaire, ou pour parler d'un autre exemple et d'un autre grand scénariste, Goscinny, dirigeant pilote. Est-ce qu'ils font le même métier?
Alors pas exactement, parce qu'il y a vraiment des spécificités dans le monde de l'édition japonaise qui seraient d'ailleurs pas forcément très bien vécues chez nous. Comme l'explique Hirohiko Goto dans son livre, les spécificités du manga, c'est que chaque semaine, les dessinateurs doivent montrer à leur responsable éditorial ce qu'ils comptent faire la semaine suivante.
C'est pas l'équivalent d'un éditeur en France?
C'est pas non, parce que en fait, par exemple, prenons la revue Jump. Dans la revue Jump, toutes les semaines, il y a une vingtaine de chapitres d'une série différente. Il va y avoir un chapitre de Dragon Ball, Nicky Larson, Olivier Tom, etc. Et chacune de ces séries est pilotée par un responsable éditorial qui a la charge d'encadrer l'auteur. Et donc, chaque semaine, l'auteur va montrer à son éditeur un storyboard et ils vont en discuter ensemble et l'auteur va attendre les retours de l'éditeur. L'éditeur va lui dire non, alors ce personnage-là, les gens l'aiment pas, donc faudrait que tu le tues. Là, c'était plutôt dramatique, donc la page d'après, faudrait que tu mettes un gag. Voilà. Et ils vont affiner ensemble l'efficacité narrative de chaque chapitre.
Alors, ce que vous dites, Grégoire Hello, c'est que les auteurs ont moins de marge de manœuvre qu'en Europe, par exemple.
Exactement. Mais ils l'acceptent, c'est-à-dire que le c'est pas gratuit. Les conseils que leur donnent leurs éditeurs, c'est dans un souci d'efficacité. Parce que au Japon, si votre série fonctionne pas, elle est coupée avant la fin. Donc le but d'un éditeur, c'est de garder sa série en route le plus longtemps possible, et donc de donner les meilleurs conseils à son auteur pour gagner la popularité des lecteurs.
Et enfin, pour terminer avec cette comparaison, Yvan Delporte ou Goscinny étaient des scénaristes. Est-ce que les grands rédacteurs en chef des magazines de manga au Japon, comme Hiroki Goto, sont des scénaristes ou est-ce qu'ils viennent plutôt d'une école de commerce?
Non, c'est vraiment... Alors, ils ont des parcours assez disparates, mais les grands éditeurs, d'une manière générale, ont fait des études de lettres. Par exemple, Hiroki Goto explique que lui, il voulait rentrer chez l'éditeur japonais qui publie le magazine Jump, mais lui, ce qu'il voulait, c'est intégrer la section roman. Ouais. Il se voyait pas du tout, ou alors les magazines, il se voyait plus journaliste qu'éditeur. Mais c'est... Je sais pas si on peut vraiment dire qu'ils sont scénaristes, mais ils ont en tout cas une âme de conteur, dans la mesure où ils sont toujours capables d'expliquer à leur auteur pourquoi telle chose fonctionne et l'autre fonctionne pas. Lui donner aussi des... Par exemple, quand l'auteur de Dragon Ball est sec, il dit « Oh, je veux arrêter ma série, j'ai plus d'idées », c'est la responsabilité de son éditeur de lui dire « Non mais attends, peut-être que tu pourrais dire que le héros il vient de l'espace ou qu'il se fait attaquer par des robots ou des... » Voilà. Et donc c'est le rôle de l'éditeur aussi de relancer l'auteur quand il est un peu à bout de souffle, quand sa capacité créative est un peu épuisée.
Donc il est vraiment au centre, l'éditeur, hein, de ce processus créatif de manga. C'est ce qui explique donc Hiroki Goto, c'est ce que vous voulez de nous dire aussi Grégoire Hello, et on se rend compte que ça a toujours existé dans le monde des mangas, Nicolas. La télope Astro Boy, par exemple, c'est un personnage mis en avant par un éditeur et pas par l'auteur.
Ah oui, tout à fait. Et c'est très éclairant ce qui vient d'être dit, parce que c'est exactement ce qui est arrivé à Tezuka pour Astro Boy. Parce qu'à l'origine, Astro, il est apparu dans une série qui s'appelait L'Ambassadeur Atom. Atom sans E à la fin. Et qui racontait les aventures d'une... Enfin, c'était une série de science-fiction assez traditionnelle, avec un monde parallèle qui se rencontrait avec le nôtre, etc. Et Astro, c'était un personnage très secondaire, un robot un peu burlesque, clownesque, qui était tourné en ridicule, qui apparaissait comme une sorte de pantin comique, quoi. Et très rapidement, la série, on s'aperçoit qu'elle ne prend pas. Et le magazine qui s'appelait Shonen décide d'arrêter la publication de l'ambassadeur Atom. Donc Tezuka imagine une fin, une conclusion un peu en catastrophe. Et le magazine lui suggère aussi de reprendre finalement ce personnage très secondaire d'Astro pour en faire un personnage principal d'une série régulière dans le magazine. On est en 51 et pendant toute l'année 51, l'ambassadeur Atom est publié et en 52 apparaît la première aventure d'Astro Boy en tant que personnage principal.
Alors le titre de votre ouvrage analytique autour d'Astro Boy, c'est Astro Boy, cœur de fer, c'est aux impressions nouvelles. Je rappelle, c'est un beau titre, hein, le fait d'associer cœur avec fer, c'est un peu ça Astro Boy, c'est-à-dire comment humaniser un super-héros qui à la base était un robot. C'est ce que va faire Tezuka durant 10 ans, c'est ça. L'évolution va durer un peu plus de 10 ans du personnage. Il sera même marqué par les grands changements de 68, comme on peut l'apprendre à travers votre texte.
Oui, tout à fait. Mais le changement, il se fait déjà malgré lui, parce que le directeur de Shonen, pour le convaincre de faire un personnage vraiment attachant pour les lecteurs du magazine, lui dit qu'il faut prendre Astro non pas comme un robot, mais comme un enfant. Tezuka est effondré parce qu'il s'imagine pas comment il peut faire ça, parce que pour lui c'est vraiment un personnage ridicule, un personnage froid. Il a du mal à se projeter dans cet univers-là. Et à partir du moment où on lui dit, mais de toute façon les lecteurs, ils ont déjà acquis le fait qu'Astro c'était pas seulement un robot, c'était aussi un enfant, eh ben il va développer cette image un petit peu ambiguë. Qui effectivement va courir pendant une grosse dizaine d'années sur l'indistinction qu'il y a finalement chez lui entre le véritable enfant et le pur androïde robot de science-fiction, quoi.
Pour reprendre un peu la thématique de ce réveil culturel, comment on fabrique des super-héros dans le monde des mangas? Là, on sait à travers ce que vous venez de dire que c'est vraiment un travail d'éditeur. Les éditeurs sont très présents, mais ces super-héros, ils naissent aussi dans un contexte particulier. Par exemple, si on doit parler d'Astro Boy avec vous, Nicolas Télope, vous dites que c'est un personnage qui, comme tous les autres héros de bande dessinée, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, que ce soit Superman, Batman aux États-Unis ou Tintin, ce sont des orphelins parce que c'est un monde qui sort d'une guerre et même de deux guerres.
Oui, alors Après, la figure de l'orphelin, c'est un archétype qui remonte à l'origine du monde, quelque part. Les récits qui mettent en scène des orphelins, il y en a partout, dans les mythes, dans la Bible. Enfin, vraiment, c'est omniprésent. Et effectivement, dans le monde de la bande dessinée, il y a quelque chose qui se passe au XXe siècle, où la plupart des héros classiques qui sont créés sont des orphelins. Bon, Tintin, il est pas nommé comme tel, mais on parle jamais de sa famille. Et les personnages qui vont lui tenir compagnie sont des pères de substitution. C'est Haddock, c'est Tournesol. Et après, les super-héros, c'est évident, quoi. Batman, Superman, sont tous des orphelins. Et voire même, ils sont super-héros parce que ils sont orphelins. C'est parce qu'ils ont perdu leur famille, c'est parce qu'ils n'ont plus de repères. C'est parce que il faut trouver leur place dans le monde, qui choisissent de prendre un costume super-héroïque, une identité secrète, et puis de venir à la rescousse de la veuve et de l'orphelin, quoi.
En éditant les mémoires de Hiroki Goto, on se rend compte aussi de l'importance qu'ont les lecteurs quant à la fabrication d'un héros. En fait, c'est encore plus poussé que le système hollywoodien qui faisait visionner ses films avant de les monter définitivement. Mmh. Là, c'est carrément le point de vue des lecteurs, à partir d'un questionnaire plutôt subtil, que vont se dégager les caractéristiques d'un personnage de bande dessinée.
Oui, alors c'est vrai que c'est assez révolutionnaire quand le magazine Jump décide de faire une enquête chaque semaine très très précise avec des questions très pointues. On demande aux jeunes lecteurs, aux enfants, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas, qu'est-ce qui te fait plaisir, qu'est-ce qui te fait peur. Et ils se collectent comme ça une base de données qui aurait coûté des millions et des millions à mettre en place d'une manière totalement classique. Et ils ont un instantané chaque semaine de la jeunesse japonaise. Et à partir de là, ils vont affiner ce qu'ils vont proposer aux enfants en rapport de ce qui est à leur goût et de ce qui est à la mode aussi. Donc ça va leur permettre d'avoir effectivement des héros qui sont à la carte dans l'air du temps. C'est-à-dire que on évoquait l'après-guerre, quand le magazine Jump démarre, les héros principaux du magazine, bon, ça va être les élèves insoumis de l'école impudique, qui est le premier grand manga du créateur de Goldorak, où voilà, pendant mai 68, parce qu'il y a eu aussi mai 68 au Japon, on l'ignore beaucoup, mais eux aussi ils ont eu leur révolte étudiante. Voilà, c'était un manga qui a fait énormément de scandales parce que c'était un manga qui se déroulait dans un collège où les professeurs tapaient les garçons et mataient sous les jupes des filles. Et du coup, les héros devaient organiser la révolte des élèves contre les profs qui étaient des salauds. Et c'est un manga qui a fait énormément de parler de lui, parce qu'on ne pouvait pas manquer de respect au corps enseignant. Et dans ce magazine-là, on le faisait. Et le deuxième manga qui était vraiment très très important dans le Jump, c'était un manga qui parlait de voyous. Voilà, c'est après-guerre les voyous, les va-nu-pieds, ceux qui sèchent l'école pour se bagarrer, les bad boys, etc.
Mais là, on reste dans des propositions d'auteurs. Ce sont pas des demandes de lecteurs.
Quelque part, si, parce que ce sont aujourd'hui les mangas qui restent. Mm-hmm. C'est-à-dire que tous les mangas qui ont été oubliés, vous sortez un nouveau manga. Bon, si les lecteurs disent non, au bout de 3-4 chapitres, hop, vous êtes dégagé. Ça, je vous parle des mangas qui, encore aujourd'hui, restent dans les mémoires. S'ils restent dans les mémoires, c'est parce qu'il y a eu plus d'une dizaine de chapitres et que les lecteurs les ont validés. Il y a aussi les mangas qui ont évolué au fur et à mesure de leur publication.
Des lecteurs, oui.
Bien entendu. Hiroki Goto parle d'un manga qui est très intéressant. Enfin, l'exemple est très intéressant. C'est Le Loup des circuits. Donc, c'est un manga qui se passe dans l'univers de la course automobile. Bon, le manga marchait pas très bien. Donc ils ont décidé de l'arrêter. Et au moment où ils décident de l'arrêter, le Japon gagne un Grand Prix. C'était assez exceptionnel. Et d'un seul coup, paf, la popularité du manga explose. Parce que d'un seul coup, il y a un emballement autour des courses auto. Et à partir de là, forcément, on va continuer le manga puisque les gens l'aiment. Puisque maintenant, les gens s'intéressent aux courses auto et d'un seul coup, tous les petits garçons japonais rêvent de devenir pilotes de course. Et à partir de là, le manga se transforme complètement et ça devient une histoire de rivalité. C'est comme ça.
Beep.
fabrique des super-héros dans l'industrie des mangas. Ce matin, dans le Réveil culturel, en compagnie de l'éditeur Grégoire Hello et du journaliste Nicolas Télop. Dragon Ball Z, bien évidemment. Mais avant la consécration par le film d'animation, parce que je suppose que avant de devenir un film, une série de dessins animés, c'est d'abord un succès en bande dessinée. Et Dragon Ball, c'est un des personnages de cette revue mythique Weekly Shonen Jump. Vous publiez d'ailleurs les mémoires d'un des rédacteurs en chef emblématiques de cette revue, celui qui était aux commandes quand cette revue connaissait son âge d'or, c'est-à-dire les années 80, et c'est 6 millions d'exemplaires par numéro. Dragon Ball, mais en quelle année ?
Alors là, on est en 86-87.
Donc on est en plein âge d'or,
tout à fait,
de cette revue. Et est-ce que pour le reste des super-héros, on est vraiment dans cette culture pop ?
Alors, mon compère en parlera sûrement mieux que moi, mais il y a beaucoup d'éditeurs de manga et Monsieur Goto en tête qui disent aujourd'hui, on a de plus en plus de mal à avoir des bons éditeurs de manga parce qu'ils ont une culture manga. Alors qu'à l'époque, les éditeurs qui aidaient à inspirer les auteurs, c'est des gens qui avaient de la culture cinéma, de la culture classique, de la culture littéraire, etc., etc. Osamu Tezuka lui-même, par exemple, était un très grand lecteur de comics américains.
Oui, Nicolas, t'es là.
Oui, et puis un amateur de cinéma aussi. Il passait à la fin de la guerre ses journées entières au cinéma pour voir des films, mais aussi des dessins animés. Disney, en l'occurrence, c'est une de ses énormes influences. Et en ce qui concerne Astro Boy, c'est la vision de Pinocchio qui va en quelque sorte être un élément déclencheur pour se dire « Ah tiens, ce robot, il peut être humanisé, il peut avoir l'air d'un petit garçon finalement ».
Alors, si aujourd'hui, il y a près de 19 millions de mangas vendus...
En France, oui.
En France.
C'est l'année record 2019.
C'est l'année record. Ce n'est pas le cas au Japon. Au Japon, en revanche...
Baisse un petit peu.
Ça baisse un peu. Mmh. Hein. Mais comment, par exemple, s'il fallait parler du dernier super-héros fabriqué au Japon par les éditeurs de mangas? Prenons l'exemple.
Le dernier, qui est le plus emblématique, hein, qui a vraiment marqué le monde entier lorsqu'il apparaît en 2016, voilà, c'est, enfin, quand il apparaît en 2016, globalement, j'ai envie de dire, c'est One Punch Man, effectivement. Ouais. Qui, à la base, part d'un gag. C'est un auteur de manga non publié qui fait des petits blogs dans son coin, qui crée un super-héros dépressif qui s'appelle One Punch Man. Il dit, ah, ça serait marrant, tiens, un super-héros qui déprime parce qu'il tue tout le monde d'un coup de poing, donc il s'ennuie. Et il est repéré comme ça. Et c'est vraiment l'envie de faire rire avec un socle pop culturel commun. C'est-à-dire que tout le monde connaît les super-héros. Hein, voilà, il a une cape, il a des gants, des bottes. Enfin, il a vraiment un costume de super-héros. Sauf que, qu'est-ce qui définit un héros ? C'est les épreuves qu'il doit affronter. Là, il n'y a aucune épreuve à affronter. Donc, c'est un super-héros malheureux. C'est juste pour se moquer.
Ça résume bien l'époque, en plus.
Oui, alors, ça, c'est surtout, je pense vraiment, sans vouloir suranalyser, c'est vraiment une volonté de se moquer du super-héroïsme, parce que c'est depuis la fin des années 2000, c'est vraiment très, très à la mode, le super-héros, notamment le super-héros à l'américaine.
Ouais, c'est vraiment à la mode, vous ?
Ah bah oui, avec le cinéma, avec les milliards de dollars engrangés par les Avengers, par Spider-Man, par tout ça. Ça fait aujourd'hui, les super-héros américains sont omniprésents dans la pop culture et même dans la culture d'une manière générale. Il y a eu un retour en force des super-héros américains dès le début des années 2000.
Et donc, dans le manga, on se moque d'eux ?
Complètement, complètement. On se moque complètement des super-héros classiques. One Punch Man montre les super-héros sous un jour finalement assez peu flatteur, quoi. Ceux qui sont très braves et qui veulent se donner pour le bien commun, etc., etc., sont tournés en ridicule parce que on les montre comme des espèces de drama queen qui veulent toujours se sacrifier alors qu'il n'y a pas besoin. Il y en a d'autres qui veulent devenir des héros juste pour être connus ou juste pour être riches, etc. Et le héros qui, One Punch Man, lui, il arrive au milieu de tout ça. Il comprend rien parce que lui, il voulait juste être un super-héros parce qu'il trouvait ça super. Ça le motivait dans la vie. Et au final, il se rend compte que, comme il n'y a pas d'enjeu, puisqu'il gagne tout le temps, il s'ennuie en fait. C'est à quoi bon sauver le monde si personne ne le sait ? C'est-à-dire que dès qu'une menace apparaît, il la détruit tellement vite qu'il n'a droit à aucun honneur. Il n'est reconnu par personne. C'est-à-dire qu'il y a d'autres héros qui font beaucoup moins de choses que lui, mais qui vont sauver une vieille dame qui allait se faire renverser par une voiture. Tout le monde le voit, tout le monde le filme, le met sur Internet. Donc le gars devient super connu, populaire, etc. Alors que One Punch Man, il va arrêter un météorite qui tombe sur la Terre, mais personne ne le voit, puisque tout le monde est parti se planquer, et il l'a explosé d'un seul coup, donc personne ne l'a vu. Il transpire même pas, donc on peut pas dire « Ah, c'est lui qui nous a sauvés ». Donc voilà, il est malheureux et il trouve tout ça inepte finalement. Donc c'est assez amusant.
Nicolas Tellac, pour terminer, est-ce que, parce que là en entendant Grégoire Hello nous parler de One Punch Man, il décrit aussi notre monde, notre époque. Est-ce que les héros des mangas japonais nous disent quelque chose de l'époque où ils sont nés ?
Oui, tout à fait. Bah, dans le cas d'Astro, c'est le contexte de l'après-guerre, c'est... cette catastrophe qui a été la fin de la défaite quoi de la guerre par le Japon, par les deux bombes atomiques qui ont évidemment eu un impact sur le moral qui était phénoménal, et puis aussi le fait que l'empereur Hirohito à l'époque avoue en public que finalement il n'est pas un être divin mais un homme comme les autres. Enfin tout ça c'est une sorte d'effondrement de la société, en tout cas des repères qui étaient ceux de la société dans la première moitié du XXe siècle. Et je pense qu'Astro, c'est celui qui vient justement apporter de nouveaux repères à une enfance qui, à l'époque, est complètement désœuvrée et sans perspective.
Alors, Astro Boy répond à une demande japonaise, c'est dans les années 50, mais aujourd'hui, maintenant que le manga est devenu un phénomène mondial, est-ce que dans les maisons d'édition de manga au Japon, quand on fabrique des super-héros, quand on étudie des personnages ou quand on a envie de lancer des nouvelles bandes dessinées, on pense global, on pense au monde entier, ou ça reste quand même très orienté vers le public japonais?
Alors, le manga a beau être très très puissant en France et en Amérique, en Allemagne, et il y a un gros secteur de développement en Amérique du Sud aujourd'hui, les Japonais restent malgré tout très centrés sur eux-mêmes, tout simplement parce que déjà on est très fiers d'avoir vendu 19 millions de mangas en France l'année dernière. 19 millions de mangas, c'est à peine ce qu'a vendu juste One Piece au Japon. Donc, on est encore très très loin des scores japonais. Il faut voir aussi une chose, c'est que les Japonais, plusieurs fois, ont déjà essayé de faire des héros pour les autres. Voilà, ça n'a jamais marché. Parce que ils pensent savoir ce qu'on veut, mais en fait, ce qu'on veut, c'est pas ce que eux pensent qu'on veut. C'est ce qu'on attend du manga, c'est justement d'être surpris par des personnages auxquels un auteur français n'aurait pas forcément pu penser. C'est un peu tordu ce que je dis, mais...
Non,
voilà.
Pas tout à fait, c'est très clair, au contraire. Nicolas Tellac, vous acquiescez aussi?
Ah oui, tout à fait. Et puis, de toute façon, je pense que naturellement, ils sont capables de créer des héros qui sont universels et qui réussissent à capter l'attention du public du monde entier, quoi.
Aujourd'hui, la grande mode au Japon, c'est ce qu'on appelle le isekai. C'est quelque chose qui s'exporte très mal. C'est alors le plus beau représentant, c'est un manga qu'on a sorti il y a quelques années qui s'appelle Moi quand je me réincarne en slime. Donc c'est un genre à part entière dans le manga, mais aussi dans la littérature japonaise, où un personnage comme vous et moi qui est pas très heureux de sa vie, en général c'est des quarantenaires un peu désabusés, vont mourir, donc assassinés, renversés par une bagnole, etc. Ils vont se réincarner dans un autre monde, un monde fantastique, et où ils vont avoir une deuxième chance de vivre une meilleure vie. Et dans le manga que j'évoque, Moi quand je me réincarne en slime, qui est un carton absolu au Japon, c'est l'histoire d'un employé de bureau un peu malheureux qui se fait poignarder dans la rue par un voleur, et il se réincarne en une espèce de petite boule gélatineuse dans un monde de fantasy avec des elfes, des dragons, etc. Et il va vivre sa vie là, et c'est une grande épopée incroyable.
Et c'est addictif à ce point, je vois.
Ah oui, 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 très... C'est totalement fascinant, quoi, parce que il y a un univers parallèle qui se crée et qui en même temps parle de nous, parle du nôtre.
Le réveil culturel de Tofik Hakem est à retrouver sur franceculture.fr.
Astro Boy, Cœur de fer de Nicolas Tellac dans la collection La Fabrique des héros, c'est édité par les Impressions Nouvelles. Et puis les mémoires d'Hiroki Goto et l'histoire du Weekly Shonen Jump, disponible enfin en France. Très beau livre, grâce à vos éditions. Grégoire Hello, merci d'être venu.
Merci à vous.
Et merci Nicolas Tellac d'être venu. On se retrouve lundi. D'ici là, bon vendredi, bon week-end avec France Culture.
France Culture, l'esprit d'ouverture. France Culture présente la 42e édition de Cinéma du Réel. Au programme cette année, une sélection de documentaires français et internationaux, des projections débat, des avant-premières, une rencontre avec le cinéaste Pedro Costa et une rétrospective Moscou Bucco. Retrouvez le programme complet sur le site internet et la nouvelle application Cinéma du Réel. Cinéma du Réel, du 13 au 22 mars, au Centre Pompidou et dans les salles partenaires à Paris. Un partenariat France Culture.
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Tofik, bonjour à tous. Emmanuel Macron ordonne la fermeture à partir de lundi et jusqu'à nouvel ordre des crèches, établissements scolaires et universités pour freiner la propagation du coronavirus en France. Il a tué 61 personnes, en a contaminé près de 3000. Nous reviendrons sur cette allocution faite hier soir, les mesures prises dans les écoles et les élections municipales. Elles sont maintenues. Nous irons ensuite à New York où le Dow Jones a vécu sa plus forte baisse depuis le lundi noir de 1987 en bourse. Et puis zoom sur un rapport de Reporters sans frontières. Il dénonce aujourd'hui la censure des médias via Internet. Une censure commanditée bien souvent par des gouvernements. L'allocution aura duré une demi-heure hier soir. 30 minutes pendant lesquelles Emmanuel Macron s'est montré déterminé à freiner l'épidémie de coronavirus. Il a ainsi égrené un certain nombre d'actions, de mesures. Mais le stade 3 n'est pas encore déclenché en France, pas pour le moment en tout cas. Car il y a le premier tour des élections municipales ce dimanche, Rosalie Lafarge.
Si rien ne s'oppose à la tenue des municipales dimanche, la semaine prochaine, les choses vont prendre une autre tournure.
Dès lundi et jusqu'à nouvel ordre, les crèches, les écoles, les collèges, les lycées et les universités seront fermés.
Un service de garde sera mis en place région par région, notamment pour que les soignants puissent continuer à aller travailler, enchaîne Emmanuel Macron. Pour les autres, le chef de l'État encourage le télétravail, mais maintient tout de même les transports publics.
Mais là aussi, c'est à votre responsabilité que j'en appelle. Et j'invite tous les Français à limiter leurs déplacements au strict nécessaire.
Pour le président, cette crise appelle plusieurs réponses. Une réponse sociale qui se traduit par le report de 2 mois de la trêve hivernale. Une réponse économique aussi, surtout.
Un mécanisme exceptionnel et massif de chômage partiel sera mis en œuvre. L'État prendra en charge l'indemnisation des salariés contraints à rester chez eux. Toutes les entreprises pourront reporter sans justification, sans formalité, sans pénalité, le paiement des cotisations et impôts dus en mars.
Emmanuel Macron insiste sur la nécessité d'agir à l'échelon national, mais aussi européen et international, sans tomber dans le repli nationaliste ou individualiste. Mais le président pense aussi déjà à l'après, et pour lui, des leçons devront être tirées.
Ce que révèle d'ores et déjà cette pandémie, c'est qu'il est des biens et des services qui doivent être placés en dehors des lois du marché. Déléguer notre alimentation, notre protection, notre capacité à soigner, notre cadre de vie, au fond, à d'autres, est une folie.
Emmanuel Macron l'affirme, il va falloir prendre de vraies décisions de rupture après la crise et sans les détailler, il s'engage fermement à les assumer.
Alors nous l'avons entendu avec Rosalie, une mesure pourrait notamment accentuer cette crise économique. Emmanuel Macron a décidé de fermer tous les établissements scolaires qui accueillent donc des enfants et des jeunes, ça va des crèches aux universités. Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a précisé hier soir les modalités de ces fermetures. 12 millions d'élèves et 1 600 000 étudiants sont concernés et ils travailleront tout de même, Sonia Princet.
Pas question de se croire en vacances. Les enfants vont devoir travailler, a bien précisé le ministre de l'Éducation nationale. Les professeurs vont continuer à enseigner à distance. Ils peuvent utiliser l'intranet de leur établissement et mettre à disposition de leurs élèves des cours, des exercices et échanger des messages avec eux. Cela existe surtout dans les collèges, les lycées et les universités. Ils peuvent aussi accéder à une plateforme élaborée par le CNED, intitulée « Ma classe à la maison » et qui propose 4 semaines de cours tout près de la grande section de maternelle à la terminale pour les filières générales et technologiques, pour l'équivalent de 4 heures de travail par jour. Les départements où les écoles sont déjà fermées l'utilisent. 15 millions de connexions simultanées sont possibles. Et pour les 5% d'élèves qui ne disposent pas d'un équipement informatique à la maison, le ministre a promis des solutions en lien avec les collectivités locales. Il a aussi indiqué que les établissements seraient sans doute fermés jusqu'aux vacances de printemps qui démarrent début avril, dans 3 semaines pour la première zone. Les examens et les concours seront a priori maintenus, mais des décisions seront prises au cas par cas.
Alors en revanche, il n'est pas prévu d'annuler les élections municipales avec le premier tour ce dimanche. La campagne tout de même est bouleversée, mais les Français sont bien appelés à aller voter. Au sein des instances du parti présidentiel La République En Marche, on veut rester serein et confiant malgré les turbulences du moment. C'est en tout cas ce qu'assure Marie Guévenou, la coprésidente de la commission nationale d'investiture du mouvement.
Comment on a abordé, nous, ces élections municipales? Un, on a toujours su qu'on n'aurait pas, dans le cadre de ces élections municipales, une retranscription des scores des élections nationales. C'est un scrutin très particulier, qui est très local, et au fond sur lequel il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de vote national. Les Français qui votent pour leur maire, souvent, ils ne connaissent même pas l'étiquette de leur maire. Donc on sait qu'on est dans ce cadre-là. Donc on l'aborde à la fois avec humilité, et en même temps, on a des objectifs ambitieux, puisque nous, on s'est fixé comme objectif d'avoir 10 000 conseillers municipaux. Encore une fois, c'est un objectif ambitieux, il ne faut pas considérer que c'est petit comme score. Donc 10 000, oui, c'est un objectif qui est ambitieux, mais atteignable, et on verra ça au lendemain du second tour. Je ne sais pas quelle sera la participation dimanche. Généralement, aux dernières municipales, il me semble que le taux de participation était de 63% à peu près. Si on se situe entre 60 et 63%, on se dira qu'au fond, il n'y a pas eu d'effet du coronavirus. Si on est en deçà, on le mesurera à ce moment-là. Quant à vous dire si je le redoute, je trouve juste que le grand nombre de nos compatriotes peuvent exercer leur devoir civique, je m'en félicite parce que c'est une liberté auquel tout le monde doit pouvoir accéder.
C'était Marie Guévenou, interrogée par Rosalie Lafarge, premier tour de l'élection, je vous le rappelle, ce dimanche. Ailleurs dans le monde, le bilan passe la barre des 5000 morts au total, 61 morts déjà en France, 1 millier en Italie. Et puis on a appris cette nuit que l'épouse du Premier ministre canadien Justin Trudeau a été testée positive au coronavirus. Justin Trudeau sera par précaution placé à l'isolement pour une période de 14 jours. Un virus qui inquiète et qui fait chuter les bourses. Moins 12,28% hier à Paris, une première dans l'histoire du CAC 40. Déroute également à Milan, à Londres et à New York, où face à la propagation de la pandémie de coronavirus et à l'absence de perspectives claires, les investisseurs ne croient pas aux mesures de relance annoncées en ordre dispersé ces derniers jours. Cela va coûter cher. La bourse de New York a vécu hier sa pire séance depuis près de 30 ans, Loïc Loury.
À Wall Street, les indices boursiers une nouvelle fois ont défilé en rouge. Comme lundi dernier, la séance a été interrompue, mesure rarissime juste après l'ouverture. La faute à la dégringolade des cours. À la clôture, le Dow Jones perd 10% du jamais vu depuis le lundi noir de 1987. Grégory Volokhin est président du groupe Mescart, gestionnaire de fonds d'investissement. Cette panique, dit-il, est le résultat d'une crise totale de confiance.
Les marchés financiers n'arrivent pas à maîtriser à la fois les perspectives de ce qui pourrait se passer à cause de l'épidémie, mais même au jour le jour, ces marchés ne savent pas vraiment à quoi se fier. On est en train de vivre une page d'histoire que, franchement, on aurait préféré ne pas vivre.
En éloignant la loupe, l'indice vedette de la bourse new-yorkaise a perdu un quart de sa valeur depuis janvier. Wall Street voit les pays se claquemurer les uns après les autres et cela affecte l'économie mondiale. Mais pour Georges Hugeux, ancien vice-président de la bourse new-yorkaise, ce plongeon n'est pas lié qu'au virus.
Ce dernier n'a été que l'aiguille qui a fait exploser la bulle. La réalité, c'est que nous vivons dans une situation de bulle financière qui ne tient pas compte ni de l'endettement ni des autres risques économiques.
Tous les deux, en tout cas, s'accordent sur une chose, la gestion de crise de Donald Trump, catastrophique, n'a rien arrangé.
Et vous pouvez retrouver ce matin sur franceculture.fr les 10 questions que vous vous posez sur le coronavirus et leurs réponses évidemment. L'actualité ce matin, elle est aussi en Irak où les États-Unis ont mené dans la nuit des frappes de représailles contre des positions d'un groupe pro-iranien. 24 heures plus tôt, deux Américains et un Britannique étaient morts dans une attaque à la roquette près de Bagdad en Irak justement. À l'occasion de la Journée mondiale de la lutte contre la cybercensure, Reporters sans frontières sort son rapport annuel sur la censure de la liberté d'expression sur Internet. Nous y penchons ce matin. RSF pointe la censure commanditée par des gouvernements. L'ONG établit même une liste de 20 prédateurs numériques, Nadine Epstein.
Ils repèrent, identifient et surveillent les journalistes qui dérangent les pouvoirs en place. Ils les réduisent au silence en les censurant, écrit Reporters sans frontières. Ils, ce sont les services mis en place par des pays pour contrôler au plus près l'information. RSF dénonce 20 gouvernements ou entreprises spécialisées privées, en tête desquelles le cabinet de haine du président brésilien Bolsonaro, la Commission nationale des télécommunications vénézuélienne, le Conseil suprême du cyberespace iranien ou encore le ministère indien des Affaires étrangères. Il y a un an, un hindouiste radical soupçonné d'être impliqué dans l'intimidation de témoins des pogroms anti-musulmans de 2002, mis en examen pour être le commanditaire de meurtres de mafieux, mais sans être jamais condamné, Hamid Shah devenait ministre de l'Intérieur. À ce poste stratégique, il règne sur la police et les services de renseignement. Harcèlement, censure d'État, désinformation ou espionnage et surveillance, ces pratiques plus le mensonge n'effraient pas Jair Bolsonaro. Le président brésilien, climato-sceptique, critico-susceptible, n'hésite pas à falsifier la réalité, comme par exemple l'an dernier, Jair Bolsonaro a limogé le directeur de l'agence spatiale brésilienne, à qui il reprochait, je cite, des publications de données mensongères au service des ONG en vue d'exagérer l'étendue de la déforestation de l'Amazonie.
Un regard vers le ciel ce vendredi en France métropolitaine. Seules quelques gouttes vont tomber sur le nord-ouest au fil de la journée. Ailleurs, les éclaircies seront belles dans l'ensemble. Ce matin, comptez 8 degrés à Nantes, 9 à Lille et Paris, 10 à Lyon et 14 à Marseille. Il est 6h40, place au journal des idées sur France Culture. Bonjour Jacques Meunier.
Bonjour Clara Lecoq-Réal.
Jacques, on ne sait pas encore jusqu'où ira la pandémie de coronavirus, mais on s'emploie déjà à en tirer des leçons.
Oui, et c'est une bonne chose car nous ne sommes pas à l'abri d'un autre épisode à l'avenir. Dans le point, Walter Scheidel, professeur, je le prononce à l'allemande, professeur d'histoire ancienne à Stanford, estime que c'est comme un entraînement. Il rappelle que lorsque la peste noire est arrivée en Europe en 1348, il n'y avait aucune quarantaine. Au XVIIe siècle, alors que les épidémies de peste continuent, les États sont bien mieux armés et imposent des quarantaines drastiques, comme par la suite en 1720 à Marseille. Une quarantaine draconienne a pour effet de laisser mourir la moitié de la population, mais contient l'épidémie. Peter Frankopan, historien à Oxford, évoque un autre enseignement, plus économique et social, l'effet positif sur la distribution des richesses. Le dépeuplement augmente le prix du travail, les loyers sont devenus moins chers, les baux pour les paysans plus longs. Du coup, la consommation est relancée, d'autant que la nouvelle génération, ayant fait l'expérience de la mort, elle était moins tentée par l'épargne. Le goût pour la mode favorise le développement rapide de l'industrie textile européenne. Et selon lui, l'augmentation du revenu disponible a eu une influence importante sur ce qu'on appellera la Renaissance. Un phénomène comparable à celui des années folles après la Grande Guerre, mais nous n'en sommes pas là, heureusement. Et s'il est vrai que la chute des cours de bourse n'affecte que les plus riches, la chute de l'activité et le chômage nous menacent tous. C'est ce que montre Jean-Marc Vittori dans Les Échos. Étiré ces 20 dernières années, les chaînes de valeur ne résistent pas à la casse d'un maillon dans l'automobile. Par exemple, la PSA, sur les 4000 pièces composant un véhicule, 3% viennent de Chine. Mais s'il manque une seule pièce, on ne peut pas livrer la voiture. Du coup, les industriels vont s'organiser autrement, avec des chaînes plus courtes et plus locales, ce qui n'est pas plus mal. La consommation est en berne, le tourisme à l'arrêt et dans l'œil du cyclone. Sans connaître la durée ni l'ampleur de l'épidémie, les mesures de confinement ont d'ores et déjà des conséquences directes sur l'économie, sans savoir. Quelles solutions seront adoptées? L'incertitude domine, un vrai poison pour l'activité, conclut Jean-Marc Vittori. La pandémie a également pour effet de révéler certaines failles de nos organisations et de nos sociétés. Mais ceux qui vantent aujourd'hui les avantages de régimes autoritaires pour mettre en quarantaine des millions de personnes, comme en Chine, oublient que l'hypercentralisation de la décision politique et la répression de la moindre espèce de dissidence, fût-elle médicale, a fait perdre au pays de précieuses semaines sur la propagation du virus, comme le rappelle Alain Frachon dans Le Monde. Quant au populisme à tendance narcissique illustré par Donald Trump, il n'est guère plus recommandable. attaché à saboter l'assurance santé mise en route par Barack Obama, le président a d'abord pris le Covid-19 de haut avec désinvolture. Attendez le printemps, ce virus est rétif à la chaleur. Le virus pourrait mettre en lumière les failles du système de santé américain, coût élevé des tests et de l'hôpital, absence d'assurance sociale pour tous, inégalité devant le congé santé, etc. En 2018, Trump a démantelé la structure qui, à la Maison-Blanche, réfléchissait à la lutte contre les pandémies. En cas de récession, il a épuisé les voies de la relance, notamment du fait d'un déficit budgétaire creusé par les cadeaux fiscaux, et tout cela pourrait lui coûter assez cher en novembre. Face à ce contre-modèle, l'Union européenne a des atouts. Alors que l'un de ses membres fondateurs, l'Italie, est à la peine, elle doit d'abord être solidaire et montrer son attachement à une ambition sociale forte qui la distinguerait des États-Unis. D'autant que l'Italie a prouvé qu'une démocratie peut placer tout le pays en quarantaine tout en renforçant son système de santé, souligne Simone Tagliapietra dans le Figaro. Engageant une véritable course contre la montre pour augmenter la capacité de ses soins intensifs, les régions voisines de la Lombardie sont en train de vider leurs hôpitaux des patients qui n'ont pas besoin de soins immédiats afin de libérer de l'espace pour qu'on puisse y accueillir les malades transportés de la région la plus touchée du pays, pourtant connue pour avoir l'un des meilleurs systèmes de santé en Europe. Le chercheur au centre de recherche Bruegel, un think tank européen consacré aux questions économiques, est actuellement lui-même confiné à Milan. Il évoque les mesures prises pour contrer les effets de l'épidémie, fournir une couverture sociale à toutes les familles et entreprises directement touchées par le coronavirus ou augmenter les fonds de subvention pour garantir que les entreprises puissent conserver leurs travailleurs. Et il suggère d'apprendre avec l'expérience italienne. (6h45 sur France Culture. Bonjour Julie Gacon.
Bonjour Jacques Meunier, bonjour à toutes et à tous.
C'est l'heure des enjeux internationaux. Alors, à l'avant-veille des municipales.
Oui, qui ont été maintenues.
Oui.
On l'a appris hier.
Qu'on se le dise. Un bilan des municipalités dites du changement en Espagne.
Oui, on appelle municipalité du changement ces équipes municipales nées dans le sillage du mouvement des indignés et qui, aux élections de 2015 en Espagne, donc, ont été élues à la tête de certaines villes, Barcelone et Madrid, mais aussi Valence, Saragosse, Saint-Jacques-de-Compostelle ou encore Cadix. Des expériences politiques auxquelles se réfèrent aujourd'hui les listes qu'on appelle citoyennes dans des dizaines de communes françaises. En Espagne, il y a 5 ans, ces listes citoyennes devaient constituer un laboratoire du renouveau, c'est ce qu'on disait, renouveau politique et démocratique. Mais ces expériences n'ont pour la plupart pas été reconduites 4 ans plus tard. Notre invité vient de publier un long article sur le sujet dans la revue Mouvement. Bonjour Héloïse Ney.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes maître de conférence en sociologie à l'Université de Tours, membre de l'UMR CITER pour Cité, Territoire, Environnement et Société. Héloïse Ney, il faut resituer les victoires de ces mairies du changement en 2015 dans le contexte espagnol de l'époque. L'Espagne a été durement touchée par la crise de 2008. Les indignés sont nés en 2011 et c'est comme ça que progressivement on en arrive à 2015.
Oui, c'est vraiment dans la continuité de ce mouvement social, en fait, qu'on peut comprendre l'émergence de ces listes citoyennes. On a un contexte, en fait, en Espagne, qui est à la fois marqué par une forte crise économique, sociale, avec vraiment des implications très fortes en termes d'expulsion de logements, de montée du chômage, et une crise politique qui est très importante, c'est-à-dire que ce que dénoncent les indignés, c'est à la fois les injustices sociales, les conséquences sociales de la crise économique, mais peut-être surtout le lien avec les élus, en fait, qui sont au pouvoir, les partis politiques qui sont au pouvoir. Et donc, ce qu'ils mettent en avant, c'est une revendication démocratique, hein, en demandant à ce que qu'il y ait une réelle représentation et une réelle participation des citoyens à la vie politique.
Est-ce que ce sont des listes uniquement citoyennes ou est-ce qu'elles sont aussi liées au parti Podemos qui est né en janvier 2014, un an plus tôt ?
Alors, en fait, c'est des listes. Alors, il y a des configurations qui sont très différentes d'une ville à l'autre, mais dans la plupart du temps, il y a effectivement plus. Il y a des partis politiques. En fait, il y a Podemos, donc qui s'est créé juste avant, qui est un nouveau parti. Soit il peut y avoir des partis plus anciens comme Izquierda Unida, donc un parti de gauche avec notamment l'ancien parti communiste. Et il y a beaucoup d'organisations sociales, de gens qui sont issus des mouvements sociaux, mais les configurations, en fait, elles vont être différentes. D'un lieu à l'autre. Par exemple, la place de Podemos, c'est pas la même dans chacune de ces 10 citoyennes.
Et d'un lieu à l'autre, alors, est-ce qu'elles obtiennent des victoires nettes, franches, ou est-ce que beaucoup doivent gouverner dès le départ en minorité ?
Alors, en fait, partout, elles créent la surprise. Hein, on s'attend pas forcément à ce qu'elles arrivent au pouvoir. Et partout, quasiment partout, elles arrivent en minorité. Donc ce sont des gouvernements hein, qui sont loin d'être des gouvernements faciles pour ces listes citoyennes. Souvent, elles ont besoin en fait du soutien des socialistes, au moins pour voter les budgets ou pour passer certaines mesures. Donc c'est plutôt des victoires qui restent fragiles, même si bien sûr elles créent une surprise énorme hein, en remportant des villes comme Madrid ou Barcelone. C'est quelque chose qui est assez étonnant.
Et quelles sont leurs priorités de ce qu'on a pu constater dès le début de leur mandat ?
Alors les priorités, c'est les mêmes que celles du mouvement des indignés. En fait, il y a une priorité qui est sur le fait de changer le contenu des politiques publiques. Donc en gros, de donner la priorité aux politiques sociales, de lutter contre l'austérité.
Alors par exemple, si vous deviez nous donner des mesures précises qui ont été prises ici et là.
Alors, très concrètement, on peut regarder sur la question du logement, parce qu'elle est assez emblématique, cette question, avec la multiplication des expulsions de logements, et aussi parce qu'une partie des personnes qui sont issues de ces listes viennent du mouvement contre les expulsions de logements. Si on regarde à Barcelone, où la maire Ada Colau était une des porte-parole du principal mouvement de lutte contre les expulsions de logements, ce qu'ils ont mis en place, c'est par exemple le fait d'imposer que dans tous les nouveaux programmes de construction ou de rénovation de logements, 30% soit réservé à des logements sociaux, ou encore d'obliger les banques qui ont des logements vides à les mettre en location. Donc ça peut être sur, par exemple sur les questions de logement. Et on peut trouver aussi, par exemple, des politiques sociales sur question de lutte contre la pauvreté infantile, ou encore le fait de chercher à remunicipaliser certains services publics.
Service des plages à Cadix ou des pompes funèbres à Madrid. C'est ça, c'est ce que vous expliquez dans votre article. Maintenant, sur la forme, Héloïse Ney, est-ce qu'elles ont pu mettre en pratique la révolution démocratique dont elles s'étaient prévalues pendant leur campagne et comment ?
Alors ça, effectivement, c'est le deuxième objectif, hein, c'est le fait de changer non seulement les politiques, le contenu des politiques, mais la manière de faire de la politique. Et là, en fait, c'est passé par des politiques de participatives, hein, de promotion de la participation citoyenne, avec également des diversités, en fait, d'une ville à l'autre. Et alors, il y a des choses qu'on va retrouver un petit peu partout, par exemple, le fait de mettre en place des budgets participatifs pour associer les citoyens à l'élaboration des budgets municipaux. Et puis, il y a certaines villes, par exemple, si on regarde le cas de Madrid, qui est assez intéressant à ce niveau-là, qu'on cherchait à promouvoir des outils de démocratie directe en s'appuyant sur le numérique. Et par exemple, une initiative qui est assez intéressante, c'est celle des initiatives citoyennes, ce qui permet en fait à tous les Madrilènes de plus de 16 ans, quelle que soit leur nationalité, de faire une proposition sur un site internet et qui touche une compétence municipale. Et en fait, si cette proposition elle reçoit 1%, au moins 1% du soutien de la population madrilène, elle fait directement l'objet d'un référendum.
Et est-ce que ça a marché ? Les citoyens se sont emparés du dispositif ? Est-ce que beaucoup de propositions ont été prises en compte et débattues et éventuellement appliquées ?
Beaucoup de propositions ont été faites. Par contre, c'est vrai que ça a été difficile d'arriver en fait au stade des 1% de soutien. Donc ça, c'était un peu la déception. C'est-à-dire qu'il y a effectivement eu beaucoup de propositions élaborées. Il y a eu plus de 20 000 propositions sur le site pendant la mandature, mais il y en a seulement deux en fait qui sont arrivées au référendum. Donc on voit un petit peu les limites aussi de système de démocratie directe qui finalement, a pas entraîné tellement la révolution démocratique qui était attendue par les élus qui l'ont mis en place et qui venaient du mouvement des indignés.
D'autres dispositifs sont intéressants peut-être à rappeler très brièvement. À Barcelone, par exemple, qui cette fois inclut les collectifs, les associations de quartier qui sont très sollicitées pendant cette mandature.
Alors c'est vrai que la situation à Barcelone est un peu différente parce qu'en fait, il y avait déjà des pratiques participatives qui associaient des collectifs citoyens, notamment les associations de quartier, ce qui n'était pas tellement le cas à Madrid, il y en avait assez peu. Et donc, du coup, l'objectif de la municipalité de Barcelona en Comú, ça a été de renforcer finalement cette démocratie associative en donnant du pouvoir en fait à ces associations de quartier, en renforçant en fait des contre-pouvoirs. Ce qui n'était pas évident en fait hein, pour une mairie comme ça qui était en partie issue des mouvements sociaux, de dire comment est-ce qu'on peut renforcer des contre-pouvoirs citoyens sans non plus manipuler les mouvements sociaux. Et donc ça a été plus orienté vers les collectifs citoyens que vers des outils de démocratie directe qui seraient orientés plus vers une participation individuelle comme on a pu avoir le cas à Madrid.
En 2019, Héloïse Ney, donc aux élections municipales suivantes, toutes ces listes du changement ne tiennent pas. D'ailleurs, la plupart ne sont pas réélues. Deux villes font exception, c'est Valence et Cadix. Comment expliquer ce qu'on peut appeler quand même un échec pour toutes les autres ?
Alors, il faut voir déjà que les échecs sont relatifs. C'est-à-dire que il y a des endroits où, bon, ces villes avaient gagné de justesse hein, en 2015 et parfois elles ont perdu de justesse aussi en 2019, hein, comme c'est le cas par exemple à Madrid. Mais de fait, elles n'ont pas effectivement tellement capitalisé hein, sur leur expérience. Alors là, ce qu'on peut mettre en avant, c'est une évolution quand même assez forte du panorama politique à l'échelle nationale, où en fait, en 2015, les principales thématiques qui était porté notamment par le mouvement des indignés, hein, c'était la question démocratique, la question de la justice sociale, alors qu'en 2019, on a un changement assez fort des priorités sur l'agenda public, qui sont davantage la question catalane, la question des nationalismes, et donc qui sont des thématiques qui sont beaucoup moins favorables en fait aux nouveaux partis politiques comme Podemos et aux coalitions citoyennes qui avaient fait campagne sur la question plus démocratique ou sociale en 2015. Donc cette question d'évolution du panorama politique au niveau national et puis le fait que Podemos soit beaucoup plus affaibli dans ce contexte-là, aussi dans le contexte de divisions internes qui ont été assez fortes au parti, ça peut expliquer en partie le fait que de nombreuses villes en fait n'ont pas été, de nombreuses villes citoyennes n'ont pas été reconduites en 2019.
Ce que vous expliquez aussi dans votre article, c'est que la législation nationale ne permet pas toujours à ces municipalités d'entreprendre ce qu'elles avaient promis. Les lois, par exemple, qui permettent aux propriétaires d'augmenter à leur guise les loyers au bout de 3 ans, ou la pression exercée par Airbnb, qui ne dépend pas de décisions municipales, sur l'accueil des migrants aussi. Alors pour conclure, Héloïse Ney, que reste-t-il de ces expériences? Quand bien même les municipalités n'ont pas été reconduites, quelles traces ont-elles laissées, peut-être?
Alors effectivement, c'est pour comprendre les limites de leur action, il faut comprendre les limites au niveau des compétences en fait et des ressources hein, qu'il y a au niveau municipal. Et là, il y a eu beaucoup d'obstacles dans le cadre de la décentralisation espagnole avec finalement certaines compétences qui dépendaient surtout de l'échelle nationale ou régionale pour impulser un changement. Après, je pense que ces villes, elles ont quand même été ambitieuses dans les politiques sociales qu'elles ont mis en place, les politiques participatives. Elles ont montré qu'on pouvait quand même changer un certain nombre de choses depuis l'échelle municipale. Alors, c'est vrai que l'expérience a pu être un peu courte dans la plupart des endroits. Hein, seulement 4 ans, on peut mettre en place un certain nombre de choses. Mais pour avoir un réel changement, ça a été un petit peu court. Après, il y a certaines villes qui sont poursuivies, les expériences se poursuivent, comme à Barcelone, à Cadix ou à Valence, où là, il peut y avoir un changement plus profond, en fait, hein, des manières de faire la politique, mais au moins, elles ont démontré qu'il y avait un potentiel d'expérimentation sociale, politique et de changement social et politique à l'échelle municipale, qui reste toutefois limitée par cette échelle.
Merci beaucoup, Héloïse Ney, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes maître de conférence en sociologie à l'Université de Tours et que votre article est à lire dans la revue Mouvement, tout entière consacrée, ce numéro-là, au municipalisme, voilà, l'avant-veille des élections municipales en France. Merci à vous.
Merci.
France Culture, l'esprit d'ouverture. Bien,
voilà du boudin. France Culture, partenaire du documentaire Boris Vian, un cœur qui battait trop fort sur France 3. Récit de la dernière année de la vie de cet artiste de 39 ans, à la fois tragique et exaltante, durant laquelle Boris Vian a couru vers sa mort en célébrant la vie. Flashback sur son enfance, l'assassinat de son père, le scandale inouï soulevé par la parution de « J'irai cracher sur vos tombes », sa carrière musicale brillante, iconoclaste. Boris Vian, un cœur qui battait trop fort, ce soir à 22h35 sur France 3, un partenariat France Culture.
Information coronavirus. Vous voulez voter ce week-end? Voici les bons gestes à adopter. Lavez-vous les mains en entrant dans le bureau de vote et en le quittant. Restez à une distance raisonnable des autres électeurs. N'hésitez pas à venir avec votre propre stylo à encre noire ou bleue et votre bulletin de vote si vous l'avez reçu par courrier. Enfin, dans la mesure du possible, privilégiez les créneaux de moindre affluence, le milieu de matinée et le début d'après-midi. Plus d'informations sur gouvernement.fr. Ceci est un message du gouvernement.
Vous écoutez France Culture, 6h57. Bonjour Guillaume Herner.
Bonjour à nouveau les Covid, bonjour à toutes et à tous.
Votre humeur du jour, Guillaume, quelles ont été les réactions à l'allocution d'Emmanuel Macron?
Eh bien, il faut le dire, Julie, une partie de l'assistance a été enthousiaste, quoique un peu interdite.
Un tiers des Français se demandaient comment il allait faire pour continuer à zoner avec ses copains sans aller au collège. Oui, parce que vous l'avez compris, je vous parle d'un échantillon représentatif de 3 enfants pris au hasard. Les écoliers pas mécontents, le collégien donc dubitatif. Enfin, tant que Twitch et autres TikTok fonctionnent, on devrait pouvoir s'en tirer. Emmanuel Macron a enregistré une forte hausse de popularité, laquelle contraste avec la chute de popularité de François Hollande lorsque celui-ci avait rendu l'école obligatoire le mercredi. Toutefois, l'honnêteté m'oblige à ajouter que cet enthousiasme des plus jeunes a été tempéré par la vive angoisse des moins jeunes. Pas de crèche, d'école et d'université, comment va-t-on faire depuis quelques jours? L'inquiétude montait. Cette inquiétude était tempérée par les déclarations maintes fois réitérées que supprimer l'école plongerait les familles et partant la France dans une situation très compliquée. Des déclarations d'ailleurs qui me coûtent une forte chute de crédibilité puisque je les ai relayées sans sourciller auprès de mes enfants à partir de 20h12. Hier soir, les boucles WhatsApp de parents d'élèves, autre fléau apparu, lui, avant le Covid. Donc les boucles WhatsApp des parents d'élèves ont commencé à partager cris de détresse et situations d'effroi, particulièrement, je dois le dire, chez les parents d'élèves qui travaillent en horaire décalé et finissent leur travail, je sais pas moi, à 9h par exemple. Alors d'un côté, cette mesure officialise ce que l'on savait déjà, nos petits amis sont des vecteurs de maladie. De l'autre, cela pose une question vertigineuse, que fait-on ? La télé, les jeux vidéo, la réécoute des cours du Collège de France, on a beau comprendre les joies du social distancing, comme on dit, l'éloignement social, pour tenter de juguler l'épidémie, le choc n'en est pas moins rude puisqu'il va s'accompagner d'un rapprochement familial. 3 semaines sans école, puis 2 semaines de vacances, c'est un peu une bonne sieste et au lit, mais avec les enfants qui vous empêchent de dormir.